Frères et sœurs bien-aimés, nous rencontrons le Seigneur en ce troisième dimanche du temps du carême à Jérusalem. Nous sommes dans l'Évangile selon saint Jean. Dans l'Évangile selon saint Jean, plusieurs fois, le Seigneur Jésus monte à Jérusalem jusqu'au jour où il fêtera sa Pâque, celle du sacrifice de sa vie sur le bois de la croix. Nous sommes là cependant au commencement de l'Évangile selon saint Jean. Jésus a entamé sa vie publique après avoir reçu le baptême de son parent Jean le Baptiste. Lorsqu'il arrive dans la ville sainte, il se rend en pèlerinage au temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem n'est pas un temple parmi tant d'autres. De même qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul temple sur le mont Sion. Chaque cité, chaque bourgade, Nazareth, Bethléem, Capharnaüm possède sa synagogue, le lieu où on se réunit pour sanctifier le jour du Seigneur, comme Moïse nous l'a rappelé dans la première épître. Il faut sanctifier le Shabbat, sanctifier le jour du Seigneur. On se rend alors à la synagogue. Si le temple se distingue, c'est parce qu'en raison de ses parvis, nous parvenons dans le temple, et dans le temple, caché par un rideau brodé, se tient le Saint des Saints, et dans ce Saint des Saints, on y conserve l'Arche d'Alliance, enfermant les 10 commandements de Moïse. Mais se tient là, et nulle autre part ailleurs, la présence de Dieu. De telle sorte que lorsque notre Seigneur offrira le sacrifice de sa vie, lorsqu'il rendra son dernier souffle en son humanité très sainte, l'évangéliste précisera que ce rideau, derrière lequel se tient la présence de Dieu, est déchiré. Dieu ne se tiendra plus au temple de Jérusalem. Il le dira à la Samaritaine, viendra un temps où on ne dira pas « c'est sur cette montagne » ou « c'est sur celle-ci ». Que nous adorerons le Seigneur, nous adorerons partout le Seigneur en esprit et en vérité. Pour l'heure, cette heure n'est pas venue. Nous sommes au commencement de la vie publique du Seigneur. Il entre donc dans les parvis, et il y avait un parvis pour accueillir les hommes, un parvis pour accueillir les femmes, mais aussi le bon Dieu, qui n'est pas seulement le Dieu d'un seul peuple, du peuple choisi, avait prévu un parvis pour les gentils, c'est-à-dire pour tous ceux qui, appartenant au paganisme, eh bien, voudraient venir voir quelque chose d'une des merveilles du monde de civilisation en ce temps-là, la splendeur du temple de Jérusalem. C'est sur cet emplacement qui manifeste déjà l'universalité du salut. Les mages sont venus témoigner déjà à la crèche de cette universalité du salut. En apparaissant aux bergers, les anges leur annoncent la venue du Messie, pour eux, membres du peuple de la promesse et de l'alliance d'Israël. Mais les mages venus d'Orient, eh bien, représentent chacun de nous qui venons du peuple des gentils, du peuple des païens. Nous ne faisons pas partie du peuple élu, mais le bon Dieu avait déjà prévu un parvis pour nous accueillir. C'est sur ce parvis, eh bien, qu'on est venu installer, comme au plus près du temple, sans y être tout à fait, les vendeurs de bœufs, de brebis, de colombes et les changeurs. Les cérémonies de l'ancienne alliance pourraient être appelées, sans préjugés, une boucherie sacrée. Il y a un certain nombre de prêtres et un certain nombre de salles dans ce temple de Jérusalem, dans les abords de ces parvis, où on prépare les offrandes qui vont être offertes en sacrifice. On va sacrifier les agneaux, on va en récolter, en asperger l'autel. Il y a les offrandes d'holocauste où on va mettre le feu à différents animaux. Les colombes, les bœufs, les agneaux sont là, présents sur le temple. Il y a aussi la table des changeurs. Et le Seigneur, qui dénonce bien souvent l'hypocrisie des pharisiens, manque pas de renverser la table des changeurs. On ne pouvait pas acheter une offrande qu'on allait offrir au bon Dieu, si sur ces pièces était estampillée la face de l'empereur qui se prenait pour un demi-dieu. Ainsi donc, avant d'aller acheter colombes, bœufs, offrandes, il fallait changer, avec bien sûr un taux de change qui arrangeait les grands prêtres. Il fallait changer la monnaie, car il aurait été impur que d'acheter une offrande au Seigneur avec la face de l'empereur. Donc le Seigneur entre dans ce parvis. Il n'est pas venu seulement pour offrir sa vie pour le peuple élu, mais à travers eux, pour l'ensemble des nations. Ainsi donc, nous voyons le Seigneur se saisir d'un fouet et chasser et ses animaux et renverser les tables des changeurs. « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce », sous-entendu. « Laissez donc ce parvis libre, car élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. De même, les apôtres seront envoyés de toutes les nations au jour de Pentecôte pour faire des disciples. » Nous comprenons alors avec quel zèle, et le mot zèle est choisi à dessein, le zèle c'est l'amour jaloux du Seigneur que nous trouvons en plusieurs endroits des Saintes Écritures, notamment dans cette citation que l'évangéliste reprend pour le Seigneur Jésus, « L'amour de ta maison causera mon tourment ». Le Seigneur Jésus est tourmenté de voir ainsi cette maison de prière dévoyée et rétablie, ce parvis des gentils qui nous figure également chacun. Voilà un peu pour le sens littéral de cette purification du temple, comme on a coutume d'appeler cet épisode de la vie du Seigneur. Une lecture allégorique veut aussi que le Seigneur parle du temple intérieur. À la suite du baptême et de la confirmation, nous avons reçu en nous cet Esprit de Dieu, l'Esprit Saint lui-même, et selon la parole de l'apôtre, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Eh bien, en ce temps du carême, voilà que le Seigneur entre dans notre temple intérieur. Chaque fois que nous ne respectons pas les 10 commandements dont lecture nous a été faite en la première épître, c'est comme si notre temple commençait un petit peu à se fissurer, un peu par-ci, un peu par-là. Et parfois, avec un petit peu de prière à la va-vite, c'est comme si on mettait un petit coup de badigeon. « Oh, ça ne va pas tenir longtemps, mais ça fera bonne impression l'espace d'un instant. » Le Seigneur Jésus entre dans le temple, notre temple intérieur, et en ce temps du carême, pointe les charpentes qui ne sont point assurées, les fondations dans la prière qui ne sont peut-être pas bien sûres et établies. Chacun d'entre nous, ce soir, humblement devant le Seigneur, reconnaît la pauvreté et la faiblesse de ce temple intérieur et demande au bon Dieu, à l'Esprit Saint notamment, de faire en nous toute cette lumière pour consolider cette œuvre de Dieu en nous, cette œuvre de la grâce. Cependant, chacun d'entre nous est profondément indigne du Seigneur, quel que soit l'état intérieur de son temple. Nul ne peut dire « Moi, mon temple est parfait, parfaitement ajusté à la loi de Dieu ». Il ne faudrait pas pour autant désespérer, car celui qui n'a pas eu peur de descendre de la gloire du ciel dans la pauvreté nauséabonde d'une crèche, nous le savons, nous qui avons des étables en notre pays, celui qui n'a pas eu peur de descendre dans la pauvreté nauséabonde de la crèche de Bethléem n'a pas peur non plus de descendre au plus profond d'entre nous. C'est là que le Seigneur veut que nous l'adorions et c'est de là que nous devons confesser nos fautes et nos péchés. Voilà le sacrement de confession. Il permet, comme le Seigneur, de mettre à mal toutes ces tables d'échangeurs avec lesquelles on voudrait marchander avec le bon Dieu, tous ces bœufs et ces brebis, ces holocaustes qu'on veut lui offrir. Le Seigneur met tout ça à plat pour que nous l'accueillions, lui, dans la vérité de sa miséricorde. Autre lecture allégorique de cet évangile que nous pourrons bien sûr méditer tout au long de notre semaine, le Seigneur Jésus a annoncé dans cet épisode que si ce temple, on avait mis 46 ans pour le bâtir, peut-être même pour le rebâtir, le roi Salomon l'a bâti, puis il y a eu des exils, des destructions, on a rebâti le temple. 46 ans de lourds travaux. Eh bien, le Seigneur dit que lui, en 3 jours, il le relèverait. Ils ne comprirent pas qu'il parlait du sanctuaire de son corps. Le corps très saint du Seigneur en son humanité, eh bien, renferme mystérieusement la gloire de sa divinité. Dimanche dernier, lors de la transfiguration du Seigneur à l'école de Saint Thomas d'Aquin, je nous ai interrogé où se trouvait le miracle de la transfiguration, dans le visage lumineux, dans la blancheur de ce vêtement, dans cette résurrection de Moïse, dans la descente du prophète Élie, dans la voix de Dieu le Père, dans cette nuée. Rien de tout cela, nous dit Saint Thomas d'Aquin. Le grand miracle des miracles, comme il appelle, c'est que, ensuite de cette théophanie, de cette manifestation de Dieu, ils ne virent plus que Jésus seul. L'humanité du Seigneur Jésus tient cachée la gloire de sa divinité, une gloire dont il a montré à ses trois plus proches apôtres un quelque chose de cette gloire que nous contemplerons au ciel. Ils ne comprirent pas qu'il parlait de son corps qui renferme la présence de la divinité. C'est la raison pour laquelle, lorsque le Seigneur meurt, le tremblement de terre met à mal les fondations du temple de Jérusalem, que le rideau se déchire par le milieu et que la présence de Dieu est maintenant manifestée dans cette absence de Dieu paradoxale du Vendredi Saint. Mais le Seigneur se relèvera d'entre les morts le troisième jour. Enfin, ce corps du Seigneur nous figure chacun. À l'école de Saint Paul, nous savons que nous sommes chacun baptisés comme greffés sur le Christ, formant l'Église. Ne pensons pas seulement, avec le synode et tout un tas d'autres activités, que l'Église serait d'abord des petits groupuscules de chrétiens de ci, de là. Il y a tout d'abord, dans le mystère de l'Église, ce corps mystique que nous formons. Chaque baptisé est membre du corps du Christ, nous dit saint Paul, et le Seigneur en est la tête. Le prêtre et les ministres ordonnés du Seigneur participent momentanément par leur ministère à ce Christ tête. Ce n'est pas mon corps que vous allez manger dans la Sainte Messe, je vous souhaite un bon appétit, mais c'est bien le corps du Seigneur mort et ressuscité que nous allons recevoir dans la communion. C'est bien que ce corps mystique que nous formons et qui est l'Église va également mourir avec le Seigneur et ressusciter avec lui, faisant de nous, selon la belle expression de saint Luc, des enfants de sa résurrection. C'est donc aussi le Seigneur qui regarde l'Église ce soir et qui ne voudrait pas que nous en fassions une maison de commerce. Il en chasse les bœufs, il en chasse les tables des changeurs, pour que justement cette Église, il le dit ainsi dans une autre version de cette purification du temple, faites de cette maison une maison de prière. La prière est ce qui nous unit à Dieu. N'oublions pas que l'Église, avant d'être une Église hiérarchique où l'ensemble du peuple des baptisés, est avant tout le corps mystique du Seigneur. Autre exemple pour comprendre cette réalité, lorsque saint Paul, avant sa conversion, persécuté avec ses lettres de cachet pour les faire flageller, les faire mettre en prison, les premiers chrétiens, le Seigneur lui apparaissant ne lui dit pas « Qu'as-tu fait à ses enfants ?»« Sol, sol, pourquoi me persécutes-tu » Et nous entendons le Seigneur nous dire en l'Évangile « Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » L'Église, c'est avant tout l'épouse du Seigneur, c'est avant tout l'épouse du Christ, c'est cette Église mystique. Et c'est ainsi que se referment et cette homélie et les Saintes Écritures sur cette aspiration avec laquelle se referment les Saintes Écritures. L'Esprit Saint et l'épouse, c'est-à-dire l'Église que le Christ a épousée sur le bois de la croix, l'Esprit Saint et l'épouse disent, voilà les temps où nous en sommes, viens. Seigneur Jésus, nous attendons son retour et puisse le Seigneur retourner comme au plus vite dans notre âme pour apporter sa lumière et sa grâce puissante. Ainsi soit-il.